la compassion et non l'amertume. Alors, nous allons étudier un petit peu ce qu'est l'amertume dans la parole de Dieu. Éphésiens au chapitre 4, verset 31, dit ceci, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Et dans Parole de vie, une autre traduction, le verset donne comme ceci, « Ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait, ne vous énervez pas, ne vous mettez pas en colère, faites disparaître de chez vous les cris, les insultes, le mal sous toutes ses formes. » Hébreux chapitre 12, verset 15, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Et dans la Bible, en français courant, on lit ceci, « Prenez garde que personne ne se détourne de la grâce de Dieu, que personne ne devienne comme une plante nuisible, vénéneuse, qui pousse et empoisonne beaucoup de gens. » Alors, nous voyons dans Jacques, chapitre 3, verset 14, « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. » Et au verset 16, « Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » Alors, qu'est-ce que l'amertume ? C'est quoi l'amertume ? Il y a déjà un verset qui nous aide un peu à cadrer cela dans Lamentations 3, verset 15. « Le Seigneur m'a rempli d'une souffrance amère, il m'a donné du poison à boire, pensez à mon malheur, et pour moi comme un poison amer. » Alors, l'amertume, elle est associée à des sentiments, à des souffrances. On peut voir dans le dictionnaire, il y a plusieurs dictionnaires qui en parlent, c'est un ressentiment mêlé de découragement et de rancœur éprouvé à la suite d'un échec, d'une désillusion ou d'une blessure relationnelle. Et une psychologue qui s'appelle Michel Larrivé dit ceci, l'amertume est un mélange de colère, de révolte et de tristesse à l'égard de souffrances qu'on a vécues comme étant injustes. On garde de ces expériences un goût amer parce qu'il nous semble que les responsables de la situation auraient pu éviter de nous imposer ces souffrances. On reste prisonnier de ces sentiments qui empoisonnent la vie. Elle persiste parce qu'elle n'a pas connu d'aboutissement. Elle n'a pas connu d'aboutissement. Elle est là, elle persiste. L'amertume est associée à la tristesse, à la douleur et à l'humiliation. Elle peut s'exprimer par des propos mordants ou offensants, ou alors être contenue dans un cœur affligé. Parce qu'on peut se dispenser d'en parler, mais on peut la garder. À quoi sert l'amertume ? Parce qu'elle peut avoir aussi un sens, on peut dire quoi ? L'amertume est d'abord le signe d'une douleur encore vivante. Elle indique qu'on n'a pas exprimé complètement ses émotions ou qu'on n'a pas agi de façon à se respecter complètement avec les personnes qui nous ont causé le tort, qui nous affectent encore. L'amertume affecte nos sentiments. Elle peut faire naître la colère, la frustration et la tristesse. Et donc, j'aimais quand même bien cette phrase qui dit, elle indique qu'on n'a pas exprimé complètement ses émotions et qu'on n'a pas agi de façon à se respecter complètement avec les personnes qui nous ont causé le tort, qui nous affectent encore. C'est pas évident, hein ? Je pense pas que il faudrait se culpabiliser d'avoir de l'amertume. Mais quand même, la garder ne serait pas une bonne chose. Il y a des situations qui créent... Et nous avons tous vécu ça. Nous avons tous eu du ressentiment. de l'amertume, une tristesse liée avec un découragement par rapport à des phrases qui nous ont été dites ou qu'on a entendu dire sur notre dos, ou des attitudes, des comportements qui se sont produits. Comment ne pas être affecté? Comment ne pas être frustré? Ben, tout le monde doit passer par là. On est tous frustrés de 36 manières différentes. Et des fois, les autres ne nous ont pas consciemment fait du mal, mais nous avons quand même été frustrés par leurs attitudes. Et l'autre n'est même pas conscient d'avoir offensé, d'avoir blessé. Alors, des exemples. Je reste amer envers mes frères et sœurs pour la façon dont ils m'ont traité dans mon enfance. Après plusieurs années, je suis encore pleine d'amertume quand je songe à mon divorce. J'ai de l'amertume face à la vie. Elle a toujours été dure pour moi. Alors, ça peut être des déceptions par rapport aux épreuves. Ruth, chapitre 1, verset 20. Mais Noémie leur répond: « Ne m'appelez pas Noémie, la femme heureuse. Appelez-moi Mara, la femme amère, car le Tout-Puissant a rendu ma vie très amère. » Elle avait perdu son mari, elle a perdu ses deux fils, elle n'avait plus que ses deux belles-filles. C'était dur d'avoir perdu, sur quatre, elle a perdu trois personnes. Vous imaginez, elle est seule, sans son mari, sans ses fils. C'est dur. Très dur. Alors, il y a des relations affligeantes. En Genèse, chapitre 26, verset 35, à partir de verset 34 d'ailleurs, Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béhéri, le Hittite, et Basmat, fille d'Élon, le Hittite. Elles furent un sujet d'amertume pour Isaac et Rebecca. Ils étaient idolâtres. Ésaü ne s'est certainement pas confié en Dieu pour les choisir. Il a choisi des femmes d'un proche environnement. Et puis, voilà, c'est des femmes idolâtres qui ont causé du souci, des problèmes dans la famille. Parce qu'on le voit avec une autre traduction, dans la Tob, elle rendit ta bénédiction. Voilà. Jacob a roulé son frère, il a roulé son père, mais quelque part, bon, on pourra voir aussi qu'il y a eu des textes avant, hein, qui nous parlent d'Ésaü qui méprisait la bénédiction, qui a vendu son droit d'aînesse pour un plat de mets aux lentilles. Mais on voit un petit peu le côté roublard de Jacob. Il a bien joué son coup, il s'est fait passer pour Ésaü, son frère, auprès de son père. Et le père, il n'y avait que du feu, il était presque aveugle. Et voilà. Voilà ce qui s'est passé. C'est pas facile, il est vraiment au comble de l'amertume. « Oh, mon père, bénis-moi moi aussi !» Et c'est trop tard. Il y a l'amertume de l'injustice. Dans Job, chapitre 10, verset 1, on voit un homme qui souffre. Hein. Pourtant, il a tout fait. Il a tout fait pour bénir. Il a tout fait pour faire du bien aux pauvres. Il n'a pas regardé les jeunes filles pour les convoiter. Il a fait gaffe. Il a vraiment offert des sacrifices quand ses fils faisaient des fêtes et buvaient un petit peu plus qu'il ne fallait, etc. Donc c'est un homme qui a vraiment servi le Seigneur. Et il finit par dire la vie me dégoûte. Alors, je vais me plaindre sans me retenir, je vais sortir tout ce que j'ai d'amer dans le cœur. C'est Job. Il est arrivé au bout du rouleau et il en a marre. La vie me dégoûte, il a de l'amertume. Qu'est-ce que je suis en train de vivre? C'est la conséquence de ma droiture, ça. Et c'est très dur pour lui. Alors, comment cesser d'alimenter l'amertume? Je pense que c'est tellement important, mais comment est-ce qu'on peut cesser d'alimenter l'amertume? Je pense qu'une première chose, c'est se détendre en Christ. Sorry, faire ça, c'est être à l'aise, quoi. Il faut que je me détende, il faut que je respire, j'apprenne à respirer, à respirer profondément. Lui donner à Jésus mes rêves meurtris, les oppressions, tout ce qui peut m'oppresser, les tensions que je peux vivre, le stress de l'avenir, nos frustrations et nos épreuves relationnelles. Pas facile, hein ? Je donne tout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça ? Mais je vais les abandonner au pied de la croix. Matthieu, chapitre 11, verset 28, on en a parlé dans la prière. Hein, on a prié. « Venez auprès de moi, dit Jésus, vous tous qui portez des charges très lourdes. » Je voudrais dire trop lourdes. Hein, pas besoin de porter tout ça. « Très lourdes. Et qui êtes fatigués. Et moi, je vous donnerai le repos. » Vous êtes fatigués de porter. Et l'amertume est quelque chose qu'on porte aussi. D'ailleurs, on s'en souvient et on pense à ces choses. Le fait d'y penser fatigue, décourage, attriste nos cœurs. Déposons tout cela. Venez auprès de moi et je vous donnerai déposer. Deuxième chose, abandonner l'esprit de revanche. Abandonner l'esprit de revanche. Il y a en nous quelque chose de charnel qui s'appelle l'esprit de revanche. Pas me laisser faire, hein. M'a fait du tort. L'amertume, c'est le sentiment que la faute est sans réponse. Il n'y a pas eu de solution, il n'y a pas eu un point final. Il y a eu une virgule. Puis ça continue et ça fait son chemin. Elle a besoin d'une revanche. Elle mérite le mal pour le mal occasionné. On m'a fait du mal. Mais sournoisement... Mais la vengeance ne peut pas s'exercer librement quand on est chrétien. C'est ça le problème. C'est que quand je suis chrétien, je ne peux pas me mettre à me venger. Parce que la parole de Dieu, elle est contre ça. Et je le sais bien. Et qu'est-ce que je fais, moi, alors, avec ça ? Eh bien, je le cache. Il est loisible de cacher l'amertume. Qu'est-ce qu'il faut en faire ? C'est pas trop bien ce qu'il faut en faire, donc la cache. Quand je suis offensé, je sais que je dois pardonner. Et c'est quoi pardonner ? C'est donner par-dessus. Donner par-dessus. J'aime bien ça, cette façon de voir les choses. Le pardon doit donc être donné, car la solution, elle est en Christ. Nous savons le sacrifice du Christ, la sainte table, la sainte scène que nous venons de prendre. Ça nous parle du sacrifice de Jésus, il a pris toutes nos fautes et la faute des autres aussi. Mais il m'arrive d'avoir dur, difficile de vivre le 70 fois cette fois. Moi, je dois pardonner 70 fois cette fois par jour. Pas encore y aller, hein. Mes agresseurs peuvent encore venir. Je peux encore avoir beaucoup d'ennemis, hein, avec ça. 70 fois cette fois, ça veut dire énormément. Et en général, on n'a pas tout ça. Parce que je suis en panne d'amour et que je suis plus prompte à me souvenir que d'oublier. J'ai un problème, c'est que je me souviens de la faute. La faute, elle revient à la surface parce que j'ai mal. Et parce que j'ai mal, je me souviens. Et parce que je me souviens, j'ai d'amertume. Et ça continue à travailler en moi, parce que je ne suis pas guéri du mal dont on m'a fait souffrir. Voilà le problème, je ne suis pas guéri. Et tant que je ne suis pas guéri, il n'y a pas de point final. Il y aura un point final quand je serai guéri. Ça, c'est sûr. Pourquoi ? Parce que mes yeux sont rivés sur mon besoin d'être respecté. J'ai le besoin d'être respecté. Respectez-moi, c'est important, et chacun a le droit d'être respecté. J'ai le droit d'être aimé. Et mes yeux devraient être sur Jésus, pas sur ce besoin-là. Qu'est-ce que Jésus a vécu ? Il a été humilié, on a dit de lui toutes sortes de mal, alors qu'il n'a même pas commis de mal. Nous sommes des pécheurs, nous le savons bien. Et Jésus n'a commis aucun péché. Et il a accepté d'être humilié. Mon besoin d'être respecté et qui a été frustré, obéi par la chair à la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent, c'est ça la loi du talion. Je ne serai tranquille que quand l'autre aura été puni pour sa faute, quelque part. Hein, c'est ça la chair. La chair, qui, quand elle gouverne, c'est à ça qu'on veut arriver. Hein. Ce n'est que par l'esprit qu'il m'est possible de désarmer mes revendications intérieures, mes justificatifs, mes raisonnements, mes pensées. Je peux désarmer par l'esprit. Et pas par la chair. La chair, ça me conduit toujours dans la loi du talion. Rien à faire. En obéissant à l'amour, j'abdique de ma position de juge pour redevenir ce gracier devant mon avocat. Jésus, il est mon avocat. Il est l'avocat des autres, hein, de tous ceux qui se confient en lui, ça c'est sûr. Sur la croix, et c'est ça qui est important de se rappeler, Jésus a pris mes meurtrissures. Tout ce qui me meurtrit, tout ce qui me fait du mal, toute l'amertume qui a pu être en moi depuis que je suis né, il a tout pris à la croix. Tout ce qui m'a privé de dignité, tout ce qui a mis une ombre sur mon identité, sali ma réputation, démoli l'image que je me faisais de moi-même. Mon ennemi m'a rabaissé par rapport à mon orgueil de départ. Parce que je suis quelqu'un, c'est important. Et puis, je suis démoli quelque part. Les copains à l'école, hein, et toutes les circonstances de ma vie m'ont un petit peu diminué. Et c'est important. J'apprends à être humble, comme ça. Ça a du bon. Ça a du bon d'être quelquefois d'être blessé au travers de circonstances difficiles dans notre vie, parce que ça change ma vie, ça change ma vie. Ça a été bénéfique. Mais mon ennemi n'a pas seulement abaissé mon ego, il m'a dépouillé de ma valeur intrinsèque. Et cela, c'est profondément injuste, car le mal est trop grand. Le mal qui m'est fait est trop grand. Quand on vous sape votre valeur intrinsèque, ça on va trop loin. On va beaucoup, beaucoup trop loin. Et c'est cette injustice qui est inacceptable, car nous avons plus de valeur que ce que l'ennemi veut nous faire croire. À la croix, Jésus nous a rendu notre dignité. Jésus dit à la femme pécheresse, « Va et ne pêche plus. » Je te rends ta dignité. Tu peux partir en paix. Je t'ai rendu ta dignité. Les autres qui jugeaient sont partis déjà, confrontés à leur hypocrisie. Mais Jésus libère. Il leur rend la dignité. Abandonner notre amertume, c'est rendre les armes, c'est permettre à Dieu de défricher un champ nouveau dans notre cœur et lui permettre d'enlever, d'ôter toutes les racines de l'amertume qui s'y trouvent. Dieu veut ôter toutes les racines de l'amertume. Je connaissais quelqu'un dans une église, ça s'appelait Paul Tonon, il me parlait des Allemands qui avaient tué plusieurs personnes de sa famille. Donc ses oncles, pères, etc. Il y a plusieurs personnes qui ont péri à cause des Allemands pendant les guerres. Il en voulait. Quand il voyait le drapeau allemand sur le pont de Dinan, voilà, c'était trop, quoi. Et qu'est-ce que c'est ce truc, on permet de mettre le drapeau allemand ici alors qu'ils ont tué autant de personnes. Et c'était quelque chose de très difficile pour lui de pardonner. Je crois qu'il est parvenu à pardonner, mais ça a été un combat. Ça a été difficile. Il y avait de l'amertume par rapport à tous ceux de sa famille qui ont été tués. Et les Irlandais du Nord et du Sud, comment peuvent-ils se pardonner à Dublin, hein? Les Tutsis, les Hutus, après le génocide de 1994, les Serbes et les musulmans, après le massacre de Srebrenica en 1991, les trois jeunes juifs que des Palestiniens ont assassinés lâchement, mais aussi les familles palestiniennes qui ont perdu plusieurs bien-aimés lors des tirs de roquettes. Pas évident. Hein. Comment est-ce que je vais faire pour extirper cette amertume? Comment arriver au lâcher-prise de l'abandon de l'amertume? Mais je crois qu'il y a une chose qu'il faut faire, et tellement importante, c'est accueillir l'amour de Dieu dans la présence du Dieu vivant. C'est l'amour de Dieu qui peut ôter cette amertume de nos cœurs. Quand je reçois l'amour de Dieu dans la présence, dans sa présence, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie. Mais il y a une chose que je dois faire. Vous savez, l'amertume, c'est comme un paquet que l'on tient avec ses deux mains. Et Dieu veut nous offrir un cadeau, le cadeau de son amour. Et tant que je tiens le paquet de mon amertume, je ne peux pas saisir le cadeau de la grâce de Dieu, de l'amour du Père. Il faut d'abord que je dépose pour que mes mains soient libres afin de prendre et d'accueillir le cadeau de l'amour que Dieu me tend. Et si je n'accepte pas, je vais garder mon amertume et je vais être privé de l'amour de Dieu. J'ai un choix à faire. J'ai un choix. Encore une chose tellement importante, c'est briser la tyrannie de l'amertume en la confrontant et en la délaissant. Briser la tyrannie de l'amertume en la confrontant et en la délaissant. Delaunay a dit « Refuser de pardonner ou garder de l'amertume dans le cœur, c'est comme avaler 500 grammes de morora et s'attendre à ce que les rats meurent. » L'amertume, elle me fait du tort. Elle ne fait pas du tort à celui qui m'a fait du tort. Elle me fait du tort. Et tant que je la garderai, c'est à moi qu'elle fera du tort. Et plus qu'à moi, elle fera du tort aux autres. Parce que tôt ou tard, j'en parlerai. Et si je n'en parle pas, j'aurai pas de joie. Je vais être triste. Je vais communiquer quelque chose de négatif aux autres. Elle est un tyran, l'amertume, elle nous sape notre joie, elle a un goût amer. C'est vraiment comme le meilleur des vins qui se transforme en vinaigre. Bon, je ne dis pas que le vinaigre n'est pas des fois intéressant, mais je préfère quand même boire un bon verre de bon vin, non? Je ne dirais jamais boire un grand verre de vinaigre. Un petit peu, c'est bon pour les artères, je pense, hein, pour les artères, je crois. Oui. Et l'amertume, en s'enracinant dans notre vie, produit des rejetons et affecte les autres. Elle tourne dans notre esprit au point d'en imprégner nos pensées, nos raisonnements sont gangrénés par cela. Et elle fait énormément de tort. L'amertume me lie à mes souvenirs blessés. Vous savez, j'ai eu de l'amertume contre mon frère. Pourquoi? Parce que ma mère m'a rapporté des propos qu'il avait dit dans une famille, la famille élargie, avec les oncles, tantes, cousins, cousines. Et j'avais été traité avec un mot qui m'avait percuté, qui m'avait blessé, et je ne lui en ai jamais parlé. Pourquoi? Parce que ce n'était pas en direct, c'était indirect. J'ai su ça d'une manière indirecte, donc j'ai difficile d'aller vers la personne. Peut-être d'autres personnes auraient eu le courage d'aller vers la personne et de lui dire clairement les choses. Ça aurait été beaucoup mieux. Mais moi, malheureusement, je ne l'ai pas fait. Et donc je suis resté comme ça avec ce mot-là, qui était comme un poignard rentré dans mon cœur pendant 40 ans. C'est bête, hein? Alors, devant Dieu, depuis ma conversion, j'ai dit, Seigneur, je pardonne à mon frère. Tu vois ce mot qu'il m'avait dit, je te le donne, ce mot-là. Je te le donne, Seigneur, je te le donne. Et mais malheureusement, c'est revenu souvent dans ma tête. Et chaque fois, je te le donne, Seigneur, ce mot-là. Je te le donne. Rien à faire, c'est... Il y avait une virgule. Il n'y avait pas un point. Il n'y avait qu'une virgule. C'est encore là. Et donc, j'ai dû prendre rendez-vous avec mon frère. J'ai pris la résolution. Je me suis dit, bon, peu importe, s'il ne s'en souvient plus, c'est normal, 40 ans après, il va me dire que ça n'est jamais arrivé. Bon, tant pis. On a pris rendez-vous, on s'est vu dans un café à Dinan, et on a parlé. J'ai pu lui dire. Voilà pourquoi je... Et je lui ai expliqué. Alors, tu m'avais traité de saisie, ben voilà, à la famille, ça m'avait été rapporté. Et voilà, je te rends ce mot-là, mais de toute façon, je t'ai pardonné. Sache-le, même si tu ne t'en souviens pas, même si tu dis que ce n'est pas toi, c'est pas grave. De toute façon, je t'ai pardonné. Je t'ai pardonné. Et lui, il ne comprenait pas trop. Mais après, il m'a demandé pardon. Et là, le fait de lui avoir dit, même s'il n'aurait pas dit « je te demande pardon », le fait de l'avoir rendu à celui qui l'avait donné, le mot qui m'avait fait du tort, le fait que je l'ai rendu, il n'était plus en moi. Et le point pouvait être mis au bout de la phrase. Et voilà comment, et il n'y a pas encore si longtemps que ça, parce que pendant longtemps, j'ai cru que c'était trop tard, c'était trop longtemps, et que ce ne serait plus crédible de parler de ça, et que c'est ridicule, complètement ridicule. Et j'ai pensé à ça pendant des années, que c'était ridicule, ridicule de chez ridicule, qu'il ne fallait plus parler de ça, qu'il y a bien trop longtemps, que c'est fini. Oh. Mais j'ai dû le faire. Et je l'ai fait. Et là, je suis parfaitement libéré de cela. Alors, l'importance pour nous, c'est de remplacer l'amertume par l'amour. Naturellement, nous pardonnons peu car nous aimons peu. Nous pardonnons peu parce que nous aimons peu. Et la femme qui était venue mettre du parfum sur les pieds de Jésus, vous vous rappelez ? Et Jésus a dit une parole extraordinaire. C'est que elle était pardonnée parce qu'elle avait beaucoup aimé. Quand on aime beaucoup, Dieu nous pardonne. C'est vrai qu'il faut demander, il faut passer par la confession, hein. Il faut passer des fois par les larmes. Il y a eu des larmes aussi qui ont coulé de ses yeux, hein. Et ces larmes disaient, je te demande pardon. Je ne sais pas si elle a su l'exprimer avec ses lèvres, mais avec ses yeux. Elle a demandé pardon, mais elle a beaucoup aimé. Et c'est pourquoi Jésus lui a dit qu'elle était pardonnée. Elle a beaucoup aimé. Le pardon est donc amour. Et l'amour, c'est un choix. Je décide d'aimer. Et donc, je décide de pardonner. C'est une décision personnelle. Et c'est important de se laisser envahir par l'esprit de Jésus, par l'esprit d'amour de Jésus, et de faire grâce parce que Dieu nous fait grâce, nous a fait grâce et continue à nous faire grâce. La délivrance est accomplie par l'amour. La délivrance est accomplie par l'amour. L'amertume, c'est un piège qui se referme sur le chasseur. Mais l'amour est le choix qui délivre de tous les pièges. L'amour, c'est le choix qui délivre de tous les pièges. L'amour pardonne une multitude de fautes. Quand on aime, on pardonne une multitude de fautes. Aujourd'hui, j'ai un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Nous avons tous un choix à faire. Soit je me laisse avilir par l'amertume, soit je lui ôte tout contrôle à ma vie. Soit l'amertume va être conservée dans mon cœur et va continuer à faire du dégât. Soit je dis stop. Stop. Et je donne cette amertume à Jésus et mon cœur redevient entièrement libre. Le dard empoisonné, j'aime bien, c'est Kirikou, dans le dessin animé, là. On voit la princesse qui a... Elle était tellement méchante. Quelle princesse, elle ne voulait pas que l'eau arrive au village, pour que les gens du village puissent avoir de l'eau. Ils mouraient de soif, tout mourait. C'est terrible. Et vous savez ce qu'elle avait à l'arrière, là ? Elle avait un dard. Et Kirikou a eu ce courage d'aller retirer le dard. Jésus, c'est ce qu'il fait. Il retire le dard qui nous fait du mal. C'est important qu'on est piqué par une guêpe d'enlever le dard. Hein. Et il a enlevé le dard qui était dans le dos de cette princesse. Et elle a été changée, elle a été transformée. Et la beauté est revenue dans sa vie. Quelque chose de magnifique. Elle a été complètement libérée. Comme Jésus, je parviens à mourir à l'offense. Je parviens à mourir à l'offense. C'est fort important de mourir à l'offense. Parce qu'il y a des offenses qu'on ne vous demandera jamais pardon, malheureusement. Hein. Si le monde était si beau, tout le monde viendrait vous demander pardon. Ils ont fait un bêtis. Oh, oui, mais tout le monde n'est pas comme ça. Et certaines personnes vous demanderont pardon. Même des gens qui demandent pardon alors qu'ils n'ont pas nécessairement blessé. Mais il y a des offenseurs qui ne reviendront pas. C'est pour ça que nous devons trouver la solution en Jésus. Je peux regarder dans les yeux de l'offenseur si j'aime et si j'ai vraiment pardonné. Mais comme on l'a dit tantôt avec mon exemple, il faut quelquefois aller redire ce mot qui nous a fait mal. Tu sais, ce mot-là, je n'accueille pas, je te le rends. Gentiment, hein, je te le rends. Parce qu'il m'a fait du tort. Donc voilà, je te le rends, tout simplement. Et en sachant que Jésus, il me rend ma dignité. Il ne faut jamais blesser les autres. Hein. Donc si on a été blessé, ça ne nous autorise pas à blesser en retour. Donc il faut s'y prendre de telle manière de ne pas blesser l'autre. Mais de pouvoir détacher le mal qui est en nous et de le remettre au Christ, de le remettre aussi à la personne pour la responsabiliser aussi. Ça l'aide, ça éduque, ça construit, mais toujours dans la douceur, toujours dans l'amour, toujours avec cette attitude de pardonner l'autre. Jamais de l'offenser à notre tour. Pas de vengeance. Alors, est-ce que nous voulons abandonner notre amertume, peut-être d'une déception relationnel qui est survenu dans notre vie? Ça peut être avec notre conjoint, ça peut être avec un enfant, ça peut être avec des parents, ça peut être avec un patron, ça peut être avec un collègue, un voisin, ou même contre l'église, ou le pasteur, ou les pasteurs, etc. Il semble que vous n'avez pas été reconnu dans votre talent, dans votre ministère, dans votre service. L'amertume, elle peut retirer en arrière. Ouais, ben puisque c'est ça, moi je vais me faire quelques pas en arrière. Je vais m'écarter de tout ça. Et c'est des fois l'amertume qui cause le fait que on prend un retrait, on se met en retrait. Jésus a pris ton amertume à la croix. Il a pris vraiment tout ce qui t'a fait saigner, tout ce qui t'a fait du tort. Il a payé le grand prix pour obtenir ta libération. Hein, il désire ta liberté. Alors il y a un choix. C'est de donner notre amertume et de recevoir son amour. C'est un choix qu'on peut faire. Ou alors je garde l'amour, comme on le dit, je garde l'amertume et je me prive de l'amour. J'ai ce choix à faire. Je donne et je reçois quelque chose de bien mieux, bien meilleur, qui va m'aider dans toute ma vie. Est-ce que nous voulons prier par rapport à cette parole ? Seigneur, merci pour